Et surtout, il a une question. Mais son père est concentré. Passer dans la forêt à cette heure-là, c'est dans cette région la certitude de croiser une biche ou un faisan, ou pire, une harde de sangliers qui aurait la bonne idée de traverser la route à son passage. À la sortie d'un bosquet, alors qu'ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres des Naudins, Jack demande à son père, comme ça, pourquoi c'est le Père Noël qui vient déposer les cadeaux le matin de Noël. Amusé lui aussi, regardant son fils de côté, René, l'espace d'un instant, sent l'émotion le gagner. Quelle fierté que celle d'être père. Et, bien embêté par une question dont il n'imagine pas avoir la réponse, il réfléchit, prépare sa réponse. Et voyant les maisons du petit village au loin, amorce ses explications. Il commence par préciser à Jack qu'au Moyen-Âge, le mot Noël était celui crié dans la rue par les passants pour annoncer et célébrer une bonne nouvelle. Ça, ce sont les souvenirs de l'école. Pour le reste, il lui faut creuser un peu plus loin. Le jeune papa explique à son fils qu'à la même période de l'histoire, celle des châteaux forts et des monastères puissants, Saint-Nicolas est considéré comme le saint protecteur des enfants. Il est alors présenté comme une vieille personne, bien plus âgée que Pépé Louis, portant une longue barbe blanche, un long manteau bleu à capuche, une crosse d'évêque et une mitre sur la tête. Une figure religieuse, donc. René précise d'ailleurs que dans certains pays, il passe toujours le 6 décembre, et que cette fête a d'ailleurs plus d'importance que celle de Noël. C'est notamment le cas des pays du nord de l'Europe, mais aussi de la Belgique. Déjà, la condition d'être sage était nécessaire pour obtenir un petit quelque chose. Et Jack de repenser à la punition qu'il vient de prendre. René continue. Ce sont d'abord les Allemands et les Hollandais qui, au XVIIIe siècle, ont transformé ce personnage religieux en une figure plus laïque. Le petit peuple des fées et des lutins est alors de retour, le tout dirigé par le vieil homme de Noël qui distribue des cadeaux dans un traîneau, le tout au pied de sapin. De nouveau, Jack se dit qu'il doit absolument demander à son père pourquoi on utilise des sapins et surtout, pourquoi eux n'en ont jamais mis. René, qui arrive maintenant tout près de la ferme, continue en racontant que les États-Unis, se souvenant après leur indépendance du folklore de leurs ancêtres européens, et notamment celui venu de Hollande, s'en inspirent pour créer Santa Claus, le Père Noël. C'est donc à cette époque qu'il est réintroduit en Europe, accompagné de son homologue, le Père Fouettard, celui qui reprend les cadeaux aux enfants qui ne sont pas sages. À cette évocation, le petit garçon tremble. Et depuis lors, ajoute son père, le Père Noël apporte des cadeaux dans un traîneau tiré par 8 rennes. Ah bon ? Lui demande son fils. Jack n'ose demander comment les rennes s'appellent. Il est très surpris de voir que son père les connaît. Fougueux, danseur, fringant, rusé, comète, cupidon, tonnerre et éclair. C'est dans un poème de 1822 qu'un pasteur américain note cette information reçue du Père Noël en personne. René conclut en disant à son fils que le Père Noël est vêtu de rouge depuis les années 1930. C'est la décennie durant laquelle Coca-Cola a décidé d'en faire son égérie et donc de l'habiller à ses couleurs. En réalité, l'influence est aussi religieuse. L'habit traditionnel des évêques et donc de Saint-Nicolas était rouge et blanc. La petite voiture se gare maintenant dans la cour de la ferme des Damés. Jack rentre chez lui. Il attrape son cartable et sort de la voiture. Subjugué par la perspective que son père soit un agent ou un ami du Père Noël, il se dépêche d'entrer au chaud. Madeleine, sa maman, les attendait sur le perron et s'empresse de lui déposer un bisou au passage. René, lui, est parti nourrir les chevaux. Jack se retrouve donc à raconter à sa mère et à Carmen sa semaine d'école, évitant là aussi toutes les allusions à une éventuelle punition à faire durant le week-end. Il essayera de la faire discrètement. Madeleine est en train de préparer une couronne qui viendra bientôt décorer la porte de la maison. Un Intrigué, là encore, Jack demande à sa mère pourquoi il est nécessaire de le faire alors même que les premiers voisins sont trop loin pour pouvoir la voir. Madeleine, elle est aussi bien embêtée devant une question si précise, est sauvée sur ce coup-là par Carmen, la bonne de l'exploitation. Son père, à elle, était un amoureux des fêtes de Noël et de l'Antiquité. Alors, il lui a expliqué pourquoi on accrochait les couronnes aux portes depuis des centaines d'années. Au moment de la Grèce antique, on le faisait toute l'année en réalité, comme une invitation à rentrer chez soi. On le faisait à l'époque avec du blé, et puis la tradition a disparu, s'est perdue dans les méandres du temps avant de refaire son apparition beaucoup plus tard. Au XVIe siècle, dans une Allemagne en pleine réforme religieuse, les couronnes sont remises aux portes début décembre afin de célébrer l'avènement. Le blé, lui, est remplacé par du feuillage vert qui est bien plus présent dans ces régions d'Europe et qui symbolise la vie éternelle. La forme circulaire, elle, est en lien avec la figure de Dieu puisqu'elle représente le cycle sans fin de sa présence et de son existence. Jack et Madeleine ne manque pas de remercier Carmen pour sa précision et tous trois vont accrocher la couronne à la porte de la ferme alors que René, frigorifié sous sa gavroche, vient se réchauffer au coin de la cheminée. Il a bien réfléchi en nourrissant les chevaux de la famille. Voilà le pouvoir extraordinaire de cet animal, nous permettre de nous recentrer sur les choses importantes et sur les profondeurs de notre être. Voyant son fils concerné par les préparatifs de la nativité à venir, il s'est décidé à lui faire plaisir. Ils ont déjà discuté avec Madeleine de son cadeau, dégoté dans un magasin de jouets d'Aubigny. Mais il va rajouter un peu de magie. Et profitant du potage, lors du dîner le soir même, René s'adresse à Jack avec ces mots. « Jack, demain matin, nous irons ensemble chercher un sapin pour la maison. »
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared.
Hache et scie dans la main, père et fils prennent le chemin d'un bois avoisinant l'exploitation agricole. Un peu plus d'un kilomètre à parcourir à pied et ils arriveront dans un boisé de conifères. René s'était bien gardé de dire à Jack que le bois appartient à l'ONF, l'Organisme National des Forêts, et que donc, prendre un sapin là pourrait s'apparenter à du vol pur et simple. Les adultes aussi, souvent, ont des secrets. René laisse Jack choisir le premier sapin qui viendra décorer le salon à l'approche de Noël. Son choix initial se porte sur un arbre beaucoup trop gros pour le dos aussi costaud soit-il de son père. Alors, presque à regret, mais tout de même très heureux de cette escapade, Jack se rabat sur un petit sapin qui se tient presque à l'écart des autres, baigné par la brume de ce matin-là d'une lumière étrange et rassurante. Et voilà donc René, hache en main, qui découpe en vitesse cette propriété de l'État et qui la charge ensuite sur son dos. Sur la route du retour, les bras chargés d'outils, une nouvelle question naît dans l'esprit de Jack. Mais pourquoi donc utilise-t-on un sapin pour décorer la maison et pas un frêne ou un hêtre? Mais le souffle coupé par le poids de ses outils, il la garde au chaud sous sa casquette. Quelques heures plus tard, le sapin est installé tout près de la cheminée et Jack profite d'être seul avec sa mère pour lui demander. Cette fois, Madeleine a la réponse. Et alors qu'elle prépare un chocolat chaud pour son petit garçon qui s'affaire avec les décorations, elle se replonge elle-même dans ses souvenirs d'enfance. C'est le fameux Louis Lefort, le grand-père de Jack, qui lui a raconté cette histoire. En Angleterre, la monarchie est en place et durant très longtemps a vécu sur le trône la plus grande reine de l'histoire de ce pays, Victoria, la mère du roi actuel. Le mari de cette tête couronnée, le prince Albert, allemand de naissance, amena avec lui cette tradition. En 1841, au château de Windsor, à l'approche des fêtes de la nativité, il décora lui-même un sapin et en fit, selon les mots de la reine, subjugué par le résultat, le nouvel arbre à la mode au moment des fêtes. Cette tradition-là aussi est très ancienne. Elle est originaire de l'Allemagne et du nord de la France, des régions où, à la fin du Moyen-Âge, se sont joués des spectacles racontant les épisodes de la création du monde. Et à chacune de ces représentations se trouvait sur la scène un conifère, plus généralement un sapin, décoré de pommes et de rubans, censé représenter l'arbre de la vie, issu des mythologies nordiques et, de manière plus chrétienne, l'Éden et son jardin. Pendant que Jack installe les derniers rubans, Carmen rentre à la maison avec du gui qu'elle accueillit. Ravie, Madeleine en profite pour expliquer à son petit garçon que cette tradition, elle aussi, est très répandue. Elle vient cette fois des pays nordiques et de leur mythologie dans laquelle Odin et Thor gouvernent le monde au sein du Valhalla. C'est pas seulement une tradition romantique selon laquelle s'embrasser sous le gui apportera aux amoureux la fertilité. C'est également une belle histoire mêlant chagrin et renaissance. Bladur, le dieu de la lumière et de la vérité, est tué un jour par une flèche fabriquée en gui. Apprenant la nouvelle, sa mère pleure. Et alors qu'elle vient se recueillir au milieu de ses baies, son fils revient à la vie grâce à ses larmes. La déesse décide alors de promettre à la plante que quiconque passerait sous elle lui donnera un baiser. Une fois le gui accroché sous l'une des poutres de la cuisine, Madeleine en profite pour déposer un baiser sur le front de son petit garçon, impatient de voir les fêtes de Noël arriver dans quelques semaines. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une anecdote réelle, suivant les célébrations de ce Noël 1950, car oui... Oui, Jack, Madeleine, René, Carmen et Louis sont des personnes tout à fait réelles. La suite du mois de décembre ne s'est pas arrangée à l'école pour Jack, qui a accumulé les punitions. Et comme vous le savez, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle, l'escalier. Et alors que ses parents apprennent sa mauvaise conduite, le terrifiant père Fouettard est venu reprendre à Jack son magnifique bolide à pédale. Pas rancunier, le petit garçon a continué de chérir Noël et son esprit. Et les années passant, il est devenu père, puis grand-père. Et chaque année, il fut très longtemps celui qui amena dans la maison de ses deux petits-fils le sapin de Noël qu'il avait été chercher lui-même. Mais rassurez-vous, il n'a pas imité son père en les volant à l'ONF. Non, non, non. Fini les bêtises de l'école. Il participa à sa manière à enraciner dans le cœur de ses petits-enfants la magie des fêtes de fin d'année et tout ce qu'elles peuvent avoir de positif. C'est aussi ça, l'art de la transmission et de l'amour. Alors, merci Jack, et joyeux Noël à vous et à tous vos proches.